enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Je viens devant toi. Et je déclare que ta parole est vivante. Elle est puissante, que tu vas me parler ce matin. Ouvre mon cœur, parle-moi Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne. Nous recevons ta parole et nous croyons qu'il y a une grande récompense pour l'homme ou la femme qui marche dans la parole de Dieu. Nous prenons autorité au nom de Jésus. Contre toute distraction, toute confusion, et nous réclamons un ciel ouvert sur ce lieu et une victoire pour le royaume de Dieu au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Déposez votre Bible pendant un instant et applaudissez avec moi ce que le Seigneur fait par sa parole. Donnez-lui une ovation. Hallelujah. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place en sa présence et tourner avec moi au psaume 10. Nous allons regarder au psaume 10, 11 et 12 ce matin. Les psaumes 10, 11 et 12 dans notre série psaume 2005, où nous regardons, découvrons, nous sommes bénis par le message et l'enseignement des psaumes. Psaume 10, 11 et 12 ce matin. Et le thème de notre message ce matin, c'est les psaumes de passion pour les pauvres. Les psaumes de passion pour les pauvres. Dans les dernières semaines, nous avons vu ensemble plusieurs psaumes. Nous avons vu beaucoup de choses qui venaient nous édifier dans nos vies personnelles. Des psaumes de protection, le psaume 91. Nous avons appris ensemble comment protéger notre vie, être libérés de notre passé, nous emparer de notre présent, protéger notre avenir, notre famille, nos cœurs, nos pensées, nos bien-aimés, nos destinées. Des psaumes de la parole ensemble pour notre enrichissement. Toutes les richesses de l'approfondissement de la parole de Dieu dans nos vies. Des centaines de personnes se sont inscrites à des cours bibliques et sont en ce moment en train de vivre le psaume 19 et le psaume 119 et d'être formés dans les voies de Dieu, être enrichis, approfondis, développés, avoir des racines profondes pour Dieu. Nous avons vu ensemble des psaumes de proclamation prophétique lors de l'anniversaire de l'Église. Des psaumes où nous proclamons ensemble tout ce que Dieu désire faire, ce qui nous appelle à faire, notre destinée en tant qu'Église. Et nous avons vu la semaine dernière des psaumes de participation du peuple, de comment nous pouvons participer à cette œuvre. Dans les prochaines semaines, préparez vos cœurs. Dès la semaine prochaine, c'est dimanche de l'Action de grâce. Et dans les prochaines semaines d'octobre, je pourrais presque appeler le mois d'octobre un mois de la puissance du Saint-Esprit. Un mois de la plénitude de l'action divine et de la puissance de l'Esprit, parce que pendant tout le mois, nous allons regarder à des psaumes de prière et d'accès. Comment aller chercher cet accès divin par la prière? À des psaumes de puissance et d'autorité. Et nous avons foi que si la fin du mois, début novembre, des centaines d'entre nous vont se lever avec une nouvelle autorité spirituelle. Des psaumes de sa présence et de l'adoration. Nous allons regarder aux psaumes qui nous enseignent comment vivre dans l'Esprit, être rempli de l'Esprit, être renouvelé de l'Esprit, communiquer l'Esprit, vivre animé par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons voir ensemble des psaumes de percée et d'accomplissement. Comment aller chercher des sphères de nos vies où il y a une chose, il y a un mur qui m'empêche, il y a une percée de Dieu que je voudrais aller chercher et qui m'échappe. David s'est retrouvé à plusieurs moments dans les psaumes et dans ces moments de mur, il nous apprend de manière puissante comment aller chercher une percée spirituelle. Dimanche prochain, la chorale va être là, spéciaux musicaux, et nous allons avoir des psaumes, nous allons regarder en ce dimanche d'action de grâce, un psaume de prodige et d'action de grâce, la puissance de l'action de grâce dans d'une attitude et d'un esprit d'action de grâce dans nos vies. Et je veux préparer ce matin, s'il est possible, je veux préparer nos cœurs à l'action de grâce dimanche prochain, simplement en prenant un instant. Ce matin, on est en plein cœur de l'automne. On a eu plusieurs lancements dans les dernières semaines qui représentent tout ce que les gens de l'Église font. Et comme pasteur de l'Église, je veux m'arrêter un instant. On va voir la semaine prochaine toutes sortes de raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Mais je veux, en tant qu'Église, en ce dimanche matin, m'arrêter avec vous pour vous dire merci. M'arrêter avec vous pour dire merci au Seigneur pour l'Église à laquelle il nous a appelés. Je veux remercier Dieu. L'action de grâce, c'est pour nos familles, nos enfants, c'est pour la santé, c'est pour tout ce qu'il nous donne. Mais l'action de grâce, c'est aussi, il y a des moments où il faut simplement s'arrêter et dire, Seigneur, merci. L'action de grâce, c'est reconnaître et nous réjouir de la bénédiction de Dieu. J'aimerais simplement reconnaître et me réjouir de la bénédiction de Dieu que nous avons en tant qu'Église. Et je le fais, non comme le leader et pasteur de l'Église en ce moment-ci du message, je le fais comme un simple croyant avec vous. Vous savez, je suis, moi, béni par notre Église. Je suis béni par tout ce que Dieu nous donne, parce que c'est vous. L'Église, c'est pas moi. L'Église, c'est pas 2, 3, 4, 5 personnes. L'Église, c'est vous tous. C'est nous tous, nous toutes ensemble. Et il n'y a pas un matin pour moi, mon épouse, vous le direz ici ce matin, il n'y a jamais un iota, il n'y a jamais un soupçon de fardeau de dire, oh, je me lève, je m'en vais travailler à l'Église ce matin. C'est toujours avec tellement de joie, parce qu'à chaque jour, moi, je vis l'accomplissement d'un rêve. À chaque jour, je vis des choses que pendant des années, j'ai rêvé de voir arriver dans l'Église, et maintenant, nous les vivons à chaque jour, et j'ai un cœur d'action de grâce. J'aimerais vous demander, de pendant les prochains instants, alors qu'on simplement regarder pendant quelques instants, et juste dire, Seigneur, pour cela, je te dis merci, je suis béni. J'aimerais que vous puissiez, dans les prochaines 45 secondes, à une minute et demie que ça prend pour lire ceci, j'aimerais que vous puissiez sourire. Il y en a que ça fait au moins 33 minutes et 40 quelques secondes, vous n'aviez pas souri encore. J'aimerais que vous puissiez sourire et dire, je suis béni. Je suis béni par mon Église. Dis à la personne à côté de vous, tu as le droit de le dire. Dis ça à la personne à côté de vous. On ne parle pas d'arrogance, on ne parle pas de prétention. On fait simplement, on n'a pas d'illusion, on ne la croit pas parfaite ou sans besoin de changement. Elle a besoin de changer à chaque semaine. On a besoin de corriger à chaque semaine. Nous avons besoin de nous améliorer à chaque semaine. Mais nous voulons, une semaine avant l'action de grâce, dire, il a fait de grandes choses. Nous sommes bénis d'être dans une Église qui grandit miraculeusement depuis 12 ans, qui a été appelée par l'Association évangélique canadienne d'Église, qui a la croissance la plus rapide depuis 12 ans, qu'à travers tout le Canada, c'est à Longueuil qu'il y a l'Église. Combien croient que c'est une joie que ce soit au Québec qu'il y ait ce souffle de croissance à travers le Canada? Nous sommes bénis. On peut applaudir la grâce de Dieu. Alléluia. Dites à la personne à côté de vous, t'es en forme un matin, puis seulement ça te prend 10 minutes pour applaudir. Dites ça à la personne à côté de vous. Vous êtes en forme ce matin. Nous sommes bénis d'être dans une église avec des centaines de baptêmes d'eau à chaque année. Nous sommes bénis d'être dans une église qui offre des programmes et des ministères extraordinaires à nos enfants. Juste vendredi, simplement pour un groupe d'âge, les grands aventuriers, les 1 à 4 ans, les pasteurs sont venus me porter tout un feuillet plein de couleurs et d'activités sur toutes sortes de choses qui prennent place. Toute une équipe qui mange, dort, boit, vit, rêve, prie afin de bénir les 1 à 4 ans. Et c'est comme ça dans tous les départements de l'éducation chrétienne et aussi de la jeunesse. Alors ce matin, je veux simplement dire, action de grâce. Nous sommes bénis par les programmes et les ministères qui sont offerts à nos enfants et à nos jeunes. Nous sommes bénis d'être dans une église où les hommes, les femmes, les couples, les célibataires reçoivent un ministère dynamique et dédié à rencontrer leurs besoins. Nous sommes bénis, continuez à dire amen, vous avez bien commencé, lâchez-moi pas en chemin. Nous sommes bénis d'être dans une église où nous pouvons vivre puissamment la prière, où toute la semaine il y a des dizaines de réunions de prière à laquelle je peux venir et chercher Dieu avec d'autres. Nous sommes bénis d'être dans une église où les soins pastoraux sont passionnés, spirituels, compétents et disponibles à chaque jour. Nous sommes bénis d'être dans une église avec un programme de cours bibliques. Ça fait des années que nous rêvons de ceci. Pour l'ITF, par l'ITF, par CEBA, par Cœur Nouvelle Vie, où des centaines peuvent prendre des cours bibliques. J'oserais vous dire que nous avons un centre, nous avons toutes sortes de volets de formation biblique dans cette église qui est sans précédent, sans égal au Québec et dans la francophonie. Nous sommes bénis d'être dans une église avec une louange dynamique, ointe et inspirée, offerte par des artistes extraordinaires que nous saluons et pour lesquels nous disons merci au Seigneur ce matin. Nous sommes bénis d'être dans une église avec plus de 100 groupes Cœur Nouvelle Vie. Ça, toute la semaine, tu peux aller à 100 endroits différents. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose cette semaine. J'étais en train de travailler, puis mes assistantes sont venues et m'ont dit, il y a un couple en avant, ça va prendre juste quelques minutes. Ils retournent en Europe, ils veulent juste dire un mois. Alors, j'ai sorti à l'avant, puis ça faisait un mois et demi ou deux mois qu'ils étaient ici. Et ils m'ont juste, les larmes aux yeux, merci, merci. Puis le monsieur a dit ces mots. Il a dit avec des mots français, avec la teneur française, l'accent français, ce que je ne ferai pas ici. Mais savez-vous ce qu'il voulait dire? Il voulait dire ceci. Il a dit ceci. Il dit, il faut vraiment travailler fort pour pas être béni à Nouvelle Vie. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Commencez à me dire, il dit, lorsque je regarde tout ce que Dieu fait, lorsque je vois tout ce qui est disponible, lorsque je vois toutes les places où tu peux t'impliquer, lorsque je vois tout ce que tu peux recevoir, faut que tu travailles fort pour être pas béni dans ce lieu. J'espère que vous êtes avec moi. Je veux ne mettre aucun effort de mauvaise attitude, d'arrogance ou de renfrognement. Je veux mettre aucun effort à pas être béni. Ce matin, je veux le dire, je suis béni. J'ai un cœur d'action de grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Pour vous dire amen. Nous sommes bénis d'être une église avec à chaque semaine des réunions où la présence du Saint-Esprit est là. Nous sommes bénis d'être dans une église avec un leadership, tous ces hommes, ces femmes, passionnés, travaillants. Des hommes et des femmes qui travaillent fort, qui se lèvent le matin jusqu'au soir avec passion depuis des années, travaillant pour vous et pour le royaume de Dieu. Leadership équilibré avec la faveur de Dieu. Nous sommes bénis d'être dans une église avec une vision dynamique, biblique, stable mais évolutive. Je suis béni de toute une équipe pastorale et d'une vision qui est en évolution. Nous ne bâtissons pas une méga-église, gros, méga. Nous voulons bâtir une méta-église qui est continuellement en train de se transformer pour rencontrer les besoins des gens. Mais je rends grâce aussi à Dieu pour le leadership de cette église qui n'a pas changé la croix pour une girouette. Qui change de direction, où la flèche change de bord à tous les 3 mois, 6 mois, s'il y a un nouveau livre qui sort, une nouvelle vague, une nouvelle tendance, un nouveau train qui passe, qu'on essaie de sauter dedans en marche et qu'on saute en bas en marche quelques mois plus tard. Je rends grâce à Dieu que sa parole est notre seul phare et nous avons une vision. On n'a pas besoin de chercher autre chose et on marche dans cette vision-là et il y a des fruits spirituels qui sont là. Je rends grâce à Dieu. Je suis béni une semaine avant l'action de grâce. D'être dans une église où la gestion est irréprochable, saine, intègre, transparente. Je suis béni lorsque le gouvernement vient et dit, vos livres sont impeccables, allons vous citer en modèle la manière dont vous faites la gestion. Nous sommes bénis d'être dans une église où les visions présentées se réalisent, où lorsqu'on présente des choses, nous l'accomplissons. Nous sommes bénis d'être dans une église où les opportunités d'implication sont si nombreuses et variées, où nous pouvons nous épanouir en servant Dieu. Nous sommes bénis dans une église dont nous pouvons être fiers dans notre communauté avec un si grand impact dans notre ville. Nous sommes bénis d'être dans une église selon le cœur de Dieu, passionnée pour la mission. Nous sommes bénis d'être dans une église où le sacrifice que nous faisons porte un grand fruit. Aux quatre coins du Québec, des centaines et milliers de chrétiens donnent et sacrifient pour souvent voir tout ce à que ils ont donné s'effriter, disparaître, s'éteindre, recommencer à zéro. Grâce à Dieu, il y a cette protection, cette continuité. Nous sommes bénis d'être dans une église où le présent et le futur est sans limite. Est-ce qu'on peut précéder l'action de grâce avec un grand amen d'action de grâce ce matin et simplement acclamer Dieu pour toute la bénédiction qu'il nous donne? C'est dans ce contexte de bénédiction que je vous présente ce matin le psaume 10, 11, 12. Psaume de passion envers les pauvres. C'est important d'établir le contexte que la passion que nous avons pour les pauvres qui sont à l'extérieur de l'Église sur la rive sud de Montréal et la passion que nous avons pour les pauvres dans les nations n'est jamais au détriment de la bénédiction à l'intérieur. Que ce soit jamais que, tellement donné à l'extérieur que tu t'occupes pas de nous en dedans. Pas du tout. Je venais de voir tout ce que le Seigneur pourvoit. J'oserais même dire ceci, là, suivez-moi bien, c'est dans le code génétique de la vision de cette Église que nous croyons que loin, bien loin de la pensée que si tu t'occupes de ceux qui souffrent, tu vas négliger les chrétiens à l'intérieur, nous croyons absolument l'inverse, que la raison principale et fondamentale pour laquelle Dieu a déversé sa faveur, sa bénédiction, le salut, les âmes, sa protection, sa provision, la raison pour laquelle nous sommes si bénis, c'est parce que nous nous occupons de ceux qui souffrent. Que c'est la cause, c'est l'essence même de qui nous sommes. Et les psaumes 10, 11, 12 appellent chacun d'entre nous à cette passion envers les pauvres. psaume, des portions du psaume 10, 11 et 12 que je vais lire qui apparaissent à l'écran. Psaume 10, 14 à 18. Tu as vu quant à toi, laissez ces paroles pénétrer vos cœurs. Tu as vu quant à toi la peine et la souffrance, Seigneur. Tu les vois et tu prends leur cause en main. C'est dans tes bras que le malheureux s'abandonne. C'est vers toi, c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Tu entends les désirs des pauvres éternels. Tu mets de l'espoir dans leur cœur. Tu écoutes pour rendre justice aux démunis et à l'opprimé, afin qu'il ne continue plus à trembler de peur. Le psaume 11. L'Éternel est dans son temple. Il a son trône dans les cieux. Le verset apparaît à l'écran. Et ses yeux regardent. C'est ce qu'il fait ce matin d'octobre 2005. Son regard sonde les êtres humains. Il déteste la méchanceté. Il est celui qui pratique l'injustice. Car l'Éternel est juste et il aime et prend plaisir aux actes, aux gestes de justice et de générosité. Et l'homme droit contemple sa face. Pendant une seconde ce matin, regardez avec moi. Ce que la parole de Dieu nous appelle à faire, c'est regarde à la face de Dieu. Regarde à la passion de Dieu. Nous avons été élevés avec une pensée d'un Dieu qui est à quelque part dans les cieux, qui est bien loin de la vraie vie, ou d'un espèce de Dieu vieillard, un peu faible, tremblotant, aux cheveux blancs, qui est loin, qui aimerait bien faire, qui fait de son mieux, mais qui est un peu, qui n'a pas de sentiment, une espèce de Dieu éthérique et sans émotion et sans sentiment. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui hait le mal, qui hait l'injustice, qui hait de voir des enfants être traités d'une certaine façon, qui hait de voir un enfant grandir avec toutes sortes de possibilités, et juste à côté de lui, dans la même ville, de voir un autre enfant du même âge avoir aucune des chances que l'autre a. Un Dieu qui hait toute pensée qu'une catégorie ou un type de personne dans la société est moindre qu'un autre. Un Dieu qui hait la pensée que les gens qui ont une certaine couleur de peau ont un quotient intellectuel moindre que d'autres. Je veux déclarer ce matin que la pensée biblique est que chaque être humain est égal en valeur, en potentiel, en beauté, que des êtres humains sont mis dans des contextes pendant des siècles qui les habilissent et qui les brisent et qui les briment et qui les limitent, mais que l'appel de l'Église, c'est qu'à travers un message, une proclamation, des gestes et une passion, nous redonnons à chaque être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, la possibilité d'être tout ce que Dieu voulait qu'il soit. Et là, si vous êtes d'accord, devriez dire amen avec moi ce matin. Psaume 12, sauve éternel. Et là, il y a un moment de découragement dans le cœur du psalmiste, et je ne partage pas son découragement. Mais vous pouvez le comprendre. Le psalmiste dit, je pourrais même dire ceci, le psalmiste a regardé, tout le monde en parle dimanche soir passé, puis il a dit ceci. Éternel, est-ce que ça en est fini avec les hommes bons? Est-ce que ça en est fini avec les hommes généreux, courageux, persévérants, qui s'attachent et qui continuent? Sauve éternel, il semble qu'il n'y a plus personne qui veut aider. Il semble qu'il n'y a plus personne qui veut être généreux. Et moi, ce matin, je dis non à cette pensée. Je comprends le cœur du psalmiste, mais je rends grâce à Dieu en 2005, dans ce lieu, ici, aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Il y a des centaines et centaines d'hommes et de femmes généreuses qui ont une passion pour ceux qui souffrent. Vous devriez dire amen. Sauve éternel. La méchanceté est partout autour de nous. La bassesse règne parmi les humains. Regardez bien le psalmiste, ce que exprime le cœur de Dieu. Parce que les malheureux sont opprimés, et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève et j'apporte le salut à ceux contre qui l'on s'acharne. L'appel de l'Église, l'appel des chrétiens, l'appel intégral qui nous sommes, c'est d'amener le salut, d'amener la justice, d'amener de l'aide à des gens contre qui la vie s'est acharnée. Et c'est l'essence même de ce moment. À tous les ans, nous avons ce moment, le premier dimanche d'octobre. C'est l'essence même de l'offrande que nous allons recueillir dimanche prochain, que je vous présente cette semaine, que nous appelons une offrande d'action de grâce. À tous les ans, il y a un tableau qui apparaît à l'écran. Nous allons la recevoir le 2 et le 9 octobre. Dans toute l'année, il y a 150 messages et plus qui sont apportés à l'Église. Il y a un message au mois de février, un message au mois d'avril, un message au mois d'octobre. Nous appelons l'Église à la générosité. Nous allons faire le message ce matin, le recueillir la semaine prochaine, alors qu'on va être dans l'action de grâce ensemble. L'an dernier, avec les personnes qui étaient là, nous avons mis un objectif devant les gens de 150 000 $ à travers les milliers qui étaient présents. Et nous avons dépassé cet objectif. chiffre. Et cette année, avec plus de 300 personnes qui se sont joints à l'Église dans la dernière année, entre 300 et 400 personnes, nous avons plus de 2000 adultes qui fréquentent l'Église Nouvelle Vie, plus de 3000 avec les enfants et tous ceux qui y viennent, ados, enfants. Mais les 2000, notre objectif, c'est les 2000 adultes de l'Église Nouvelle Vie qui donnent 200 000 $ ensemble. Simplement des aussi simple que ça semble tellement gros et c'est pourtant si atteignable parce qu'on est si nombreux. Aussi simple que 700 personnes, 700 unités de dons aux familles qui, à part de leurs dîmes, diraient « Je vais mettre 100 $ de côté. » Je vais être très direct avec vous ce matin. La plupart du temps, lorsqu'on parle ainsi, ce n'est pas, on dit à part des dîmes, mais ce n'est pas les gens qui donnent leurs dîmes qui sont difficiles à convaincre. Parce que la plupart des gens qui donnent leurs dîmes ont à cœur de donner une offrande par-dessus. Ce que je m'adresse beaucoup ce matin, c'est pas juste au-delà des dîmes, ce que je m'adresse beaucoup ce matin, c'est les centaines et centaines et centaines de familles de l'Église Nouvelle-Vie qui ne donnent rien du tout pendant l'année, ou qui donnent presque rien pendant toute l'année. Et je veux vous défier, je veux vous appeler, si vous ne donnez pas votre dîme à cette Église, nous croyons que c'est l'enseignement biblique pour les croyants de donner la dîme, mais si vous ne donnez pas la dîme en cet automne, que vous puissiez faire ce premier pas de foi, que vous puissiez faire un pas d'offrande, je ne donnerai pas la dîme pour mon année, mais je vais donner une offrande significative en cet automne. Et toute l'offrande en entier, des gens qui donneraient 100 $, des gens qui vont donner 200, des gens qui vont donner 300, une cinquantaine de personnes qui ont des moyens supérieurs aux autres, tous sont appelés à donner. Et nous croyons qu'ils sont bien peu les personnes qui disent « Je ne peux pas d'aucune façon. » Lorsque je regarde à tout mon budget au complet, lorsque je regarde à ce que je dépense en vidéo, en DVD, en resto, en n'importe quoi d'autre, en cinéma, je ne peux pas trouver 100 $ pour l'œuvre de Dieu. Je crois qu'ils sont bien peu ces gens-là. Mais qu'il y en a qui sont ici, qui peuvent, par la grâce de Dieu, vous avez cette capacité financière que 50 personnes ensemble puissent donner des dons significatifs et que tous ensemble nous puissions donner une offrande de 200 000 $ et tout ce qui est donné cet automne va aller pour les activités du groupe Action Nouvelle Vie, pour l'hypothèque et les coûts de bâtiment d'Action Nouvelle Vie, pour le salaire et le soutien des employés d'Action Nouvelle Vie, pour les coûts d'opération, les équipements, les véhicules, les agrandissements, la rénovation 2005 d'Action Nouvelle Vie. On est en train d'agrandir la boutique d'Action Nouvelle Vie dans les prochains mois. C'est aussi pour combler un recul dangereux et grave accumulé de juillet à septembre. Entre le mois de juillet et le mois de septembre, les dons de l'Église étaient stables et en montée jusqu'au mois de juillet. Et à partir des vacances, juillet, août et septembre, il y a des centaines et centaines de personnes qui donnaient auparavant, qui ont arrêté de donner pendant l'été et qui n'ont pas repris encore. Ce genre de manque d'arrêt hors budget complètement est extrêmement dangereux pour notre Église. Nous met en danger de ne pas être capable de continuer à faire les ministères comme ceux d'Action Nouvelle Vie. Alors cette offrande est afin de combler ce recul dangereux, de nous libérer pour faire l'œuvre du Seigneur envers les pauvres, pour le maintien et le développement de programmes qui donnent espoir et vie. Lorsqu'on parle d'Action Nouvelle Vie, c'est 8000 personnes par mois qui reçoivent de l'aide. Et toutes les offrandes vont aller à ça cet automne. Offrande spéciale qui va être reçue la semaine prochaine pour Action Nouvelle Vie et ses ministères comme la Banque alimentaire, qui donne de la nourriture à des milliers de familles à chaque mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà manqué de nourriture? Ici au Québec, il y a manqué, il n'y en avait pas assez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vécu comme moi, que le jeudi soir, les deux payes entre jeudi et samedi avaient été bues par papa? Qu'à partir de samedi, maman disait des affaires comme « Non, c'est correct, maman n'a pas faim. » Que nous autres, on mangeait nos toasts et nos affaires, mais que maman disait « Moi, j'ai pas faim. » Il y a des milliers de familles de la rive sud de Montréal qui reçoivent une aide alimentaire directe à chaque semaine, qui épargne leur vie, protège leur vie, sauve leur vie, leur permet de continuer à travers la Banque alimentaire. Et c'est ce que nous allons soutenir ensemble à travers cette offrande. Des programmes comme des gens qui sont des pauvres, des gens qui sont des nouveaux pauvres, tout à coup, série de tragédies, perdent leur emploi, surtout dans des situations très difficiles. Des gens qui sont des immigrants, des gens qui vivent des urgences, des gens qui vivent des incendies, des gens qui vivent des divorces déchirants, des femmes qui se retrouvent sans ressources. À travers les ministères comme la Banque alimentaire, à travers le ministère, à travers des services comme la Banque alimentaire, à travers des services comme le programme Bon Départ. Lorsqu'une jeune fille arrive et qu'elle pourrait avoir ces possibilités d'avoir un avortement où elle est seule, elle porte un enfant, nous lui disons, on va être avec toi, si tu gardes le bébé, on sollicite le secteur privé et c'est des centaines d'enfants qui en bénéficient et on va t'aider, on va être avec toi, on va te fournir le lait, on va te fournir les couches, on va te fournir la nourriture pour bébé. Savez-vous que si vous allez à Action Nouvelle Vie, il y a des murs complets de photos de mères même dans la salle d'accouchement ou après à l'hôpital où c'est des bénévoles d'Action Nouvelle Vie qui sont allés avec elles pour les accoucher. Qui sont allés et on leur dit, on sera pas seulement avec toi le soir d'accouchement, on va être avec toi pour les mois qui suivent. Combien croient que ça, c'est un accomplissement du psaume 10, 11 et 12, de prendre dans nos bras ceux qui souffrent? Les ministères comme les services comme la boutique aide, où tout est, il y a toutes sortes de vêtements de haute qualité qui sont à prix modique dans une province comme le Québec. Avec l'hiver si froid et les coûts, vous savez ce que ça coûte, les manteaux, les bottes, etc. Un des aspects les plus grands, des plus importants et une des clientèles ou des groupes de personnes qui en bénéficient le plus sont des gens, des immigrants qui arrivent par centaines. Nous avons maintenant des bénévoles de l'Église qui parlent espagnol, qui vont être des traducteurs et des traductrices la semaine pour aider les hispanophones qui arrivent de pays d'Amérique latine. Ils sont en plein, arrivent ici, premier hiver, à moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, n'ont aucune idée du froid, ne savent pas, n'ont pas les sous, ils n'ont pas leur papier encore, l'aide sociale n'est pas rentrée, souvent, ils n'ont aucune source de revenus, et à travers la boutique, on est capable de mettre du linge sur les vêtements sur le dos des enfants. Retour à l'école, où des centaines d'enfants, leurs noms nous sont donnés par les écoles, et par les familles, et par le CLSC, et on peut donner aux enfants ce qu'ils ont besoin pour commencer l'école avec des livres. Ça, c'est un acte de justice. Combien comprennent que un des seuls chemins par lequel un petit garçon, une petite fille peut faire quelque chose de sa vie, c'est l'éducation. Et qu'il doit, chaque enfant, le cœur de Dieu, c'est que chaque enfant commence avec les mêmes chances, les mêmes livres, les mêmes crayons. Moi, je veux commencer l'école et avoir une chance de réussir mon année, réussir mes études et réussir ma vie. Vous pouvez vous dire amen. Retour à l'école, c'est ça qu'on va soutenir ensemble avec cette offrande. Bien sûr, les activités de Noël qui s'en viennent, les paniers de Noël, des cadeaux qui sont donnés à des milliers de familles. Pour l'accomplissement de l'appel des psaumes 10 à 12, des psaumes de passion pour les pauvres. Et bien aimé, à tous les mois d'octobre, lorsque nous recueillons ces offrandes, jamais l'Église, à aucun autre moment, l'Église n'est plus biblique. Plus selon l'appel de la parole de Dieu à aider ceux qui souffrent. Jamais l'Église n'est plus comme Christ, comme Jésus, chrétienne, qui a tout donné pour servir ceux qui souffrent. Jamais l'Église n'est plus puissante et joyeuse. Vous avez l'air joyeux ce matin pendant que je prêche ce message-là. Laissez-moi vous dire, il y a des centaines de personnes ici qui ont compris le secret. Des centaines de personnes qui savent qu'il y a une joie à aider, qu'il y a une joie à donner. Lorsque la semaine dernière, j'ai fait la demande pour que, est-ce que s'il y a des familles qui voudraient nous aider à envoyer des jeunes de la retraite, que leurs parents n'ont pas les sous pour les envoyer. Le pasteur de jeunesse faisait des danses dans le bureau parce qu'il y a un homme de l'église qui est venu le voir et qui lui a dit, même s'il y en a plusieurs, qu'il y en ait 5 ou qu'il y en ait 10, je veux pas qu'il y ait un seul jeune qui aille pas à la retraite. Tous les jeunes qui n'ont pas les sous, qui sont des cas sérieux, qui n'ont pas les sous, dis-moi-les, et c'est moi qui va faire le chèque. On n'est pas tous capables de faire ça ici aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que ce monsieur-là, ainsi que lui, il n'y a pas personne qui l'a forcé. Il n'y a pas personne qui l'a... Pourquoi le donner ainsi? Il a compris quelque chose. Il y a une joie. Il y a une joie à servir, à prendre les ressources que Dieu m'a données et à aider quelqu'un. Et en ce moment, il y a des jeunes qui sont bénis parce que lui a donné. Quelqu'un devrait dire amen. Oh, please, come on! Jamais dans l'année, l'Église n'est plus courageuse. C'est un moment de foi, de courage. J'arrive déjà serré. C'est déjà difficile. Mais je mets ma foi en Dieu. Je mets mon temps à part. Je vais donner maintenant. Je vais faire confiance à Dieu. Je vais faire preuve de courage pour quelqu'un qui souffre. Jamais l'Église n'est plus en position d'être bénie. C'est lorsque vous donnez ainsi que vous me placez en position pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est lorsque nous le faisons en tant qu'Église que nous sommes en position à nouveau pour être bénis. Et jamais l'Église n'est plus éternelle. Hier, j'ai été invité à aller adresser une convention de l'Union baptiste du Québec. C'était un grand honneur, un grand privilège. Il y avait des pasteurs des quatre coins du Québec qui étaient là. Puis il y avait aussi une dédicace d'église pour une église magnifique, l'église de la Prairie, l'église baptiste de la Prairie, l'église du Sommeur de la Prairie. Une magnifique église, magnifique. Et un moment dans la soirée, j'étais là hier soir, c'est moi qui apportais la parole, mais j'étais tellement juste honoré d'être là. Parce qu'il y a eu un moment où ils ont invité à l'avant les 6, il y avait 6, les autres, plusieurs des autres sont maintenant avec le Seigneur, mais 6 des 11 membres fondateurs de l'Église il y a plusieurs décennies. Des messieurs et des madames dans les 70, 80 ans qui se sont approchés, les cheveux tout blancs, ils avaient signé les papiers, ils étaient les fondateurs de l'Église il y a des décennies et des décennies. Et alors qu'ils les ont invités en avant, j'étais extrêmement ému de voir ces gens qui ont consacré leur vie entière à bâtir l'Église. Et là, ils ont invité des enfants et des jeunes à venir leur remettre une plaque. Et ils ont, ces personnes âgées étaient debout là, avec humilité, la tête penchée, mais avec un cœur pour Dieu. Puis je regardais, puis je voyais tout le courage des années, de gens qui ont donné, qui ont prié, qui ont sacrifié. Et là, s'est approché vers eux les enfants et les ados, les jeunes de parents qui se sont convertis. J'aimerais vous dire que lorsque vous donnez à l'œuvre de Dieu, jamais est-ce que vous êtes un endroit où vous participez à quelque chose qui est plus éternel, qui va produire un fruit le plus pour la gloire de Dieu. Vous devriez risquer. Amen. C'est ce que nous faisons avec cette offrande d'automne pour Action Nouvelle Vie. Jean, cette offrande, cette passion envers les pauvres, une seule pensée ce matin que j'aimerais vous communiquer. J'aimerais vous communiquer la compréhension, la confiance et la compassion de cette passion. Que lorsque nous avons cette passion pour les pauvres, c'est parce que nous avons une compréhension, une confiance et une compassion. Que lorsque nous entrons dans cette possibilité de donner, nous entendons la voix de Dieu au psaume 10 qui dit ceci. C'est toi, ô Dieu, qui viens au secours des pauvres. C'est dans tes bras que s'abandonne le malheureux afin qu'il ne continue plus à trembler de peur. L'Éternel, psaume 11, 7. L'Éternel est l'injustice. Il aime la justice. Il prend plaisir aux gestes de justice. Lorsque je lis des psaumes comme c'est dans tes bras, Seigneur, que s'abandonnent les malheureux. C'est vers toi que l'Éternel vient au secours des pauvres. C'est dans tes bras, Seigneur, que l'Éternel, que les malheureux trouvent leur consolation. La grande question que vous devez vous poser, c'est comment que ça arrive? Comment Dieu prend-il des pauvres dans ses bras en 2005? Comment quelqu'un qui souffre à Longueuil peut-il trouver les bras de Dieu? Au-delà de la poésie, de l'image magnifique d'un Dieu qui prend les gens dans ses bras, comment est-ce que Dieu peut-il prendre des gens dans ses bras et les aider dans leur souffrance en 2005? Où les gens trouvent-ils les bras et les mains de Dieu et arrêtent de trembler de peur dans leur maison? La compréhension que Dieu, le psaume 11, 17, que Dieu haït l'injustice, mais qu'il aime la justice et il prend plaisir aux gestes de justice, de générosité et aux gestes d'amour, aux gestes de sacrifice. J'aimerais le dire comme ceci, c'est important pour chaque croyant de contempler la face de Dieu, de comprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu déteste. Il déteste l'injustice, il déteste le mépris envers ceux qui souffrent ou l'indifférence envers ceux qui souffrent, mais il prend plaisir à ses actes. Alors, il y a la question, il y a toujours le message de Dieu, mais quel est le moyen? Il y a des psaumes pour un pasteur, pour un homme de Dieu, pour vous, il y a des psaumes qui nous transportent pendant un instant d'espoir. Lorsque le psaume 76 dit « Dieu se lève pour sauver tous les pauvres et tous les malheureux de la terre. » On peut dire « Amen, Dieu se lève. » Mais comment va-t-il le faire? Comment le malheureux trouve-t-il les mains de Dieu? Où trouve-t-il les bras de Dieu? Le psalmiste, il y a le message de Dieu, mais il y a toujours le moyen de Dieu qui est donné. Psaume 35, le psalmiste pose une question qu'on se pose maintenant. « Tous mes os s'écrieront, Éternel, qui va délivrer le malheureux? » Contre celui qui est plus fort que lui. Qui va défendre le pauvre contre celui qui le dépouille? Seigneur, tu veux pas gagner un seul, tu veux venir au secours de tous les malheureux de la terre, mais qui va se lever contre celui qui est plus fort que lui? Le psaume 20, verset 1, psaume 20, verset 1, 4 et 7 dit, « Oui, l'Éternel répondra dans la détresse. Du saint lieu, il enverra du secours. Il se souviendra de toutes les offrandes. Il répondra du sanctuaire. » Par le secours de sa main puissante. Le Seigneur dit, oui, c'est dans mes bras que le malheureux va trouver de l'aide, mais il va le trouver à partir de mon sanctuaire, alors que vos mains deviennent mes mains, vos cœurs deviennent mon cœur, vos bras deviennent mes bras. C'est du sanctuaire que Dieu va se souvenir des offrandes et qu'il va bénir afin d'amener de l'aide à ceux qui souffrent. Quelqu'un devrait dire amen. Le moyen de Dieu, c'est son peuple sur la terre. C'est chacun d'entre nous qui devienne ses mains, qui devienne ses bras. Écoutez l'appel de Dieu. Lavez vos mains, purifiez-vous, ôtez de ma vue l'égoïsme, ôtez de ma vue l'indifférence cruelle, la méchanceté de vos actions. Faites cesser le malheur, apprenez à faire du bien, répandez la justice, soyez généreux, Ésaïe 1, 17, soyez généreux envers les pauvres, défendez la femme seule, combattez l'oppresseur, plaidez pour les démunis. L'appel de l'Esprit de Dieu à se tenir dans la brèche. Il y a quelques semaines, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, et c'était une convention pour chrétiens sur la prière, l'intercession. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses extrêmement centrées sur le prophétique, apôtre, toutes sortes de choses qui étaient là. Puis il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de un groupe de chrétiens qui étaient ensemble. Ça durait pendant 5 jours. Et il y avait énormément de choses qui prenaient place pendant ce vidéo-là, toutes sortes de courants en ce moment qui sont autour de nous. Et le thème, ce qui m'a frappé, c'est que le thème de la conférence, c'est « se tenir dans la brèche »,« standing in the gap ». Et souvent, nous lisons un texte comme Ézéchiel 22, 30, qui dit « Je cherche parmi eux un peuple qui les protégera, qui se tiendra dans la brèche en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. » Et souvent, on prend ce verset-là pour dire « Se tenir dans la brèche, c'est la prière, c'est l'intercession, c'est toutes sortes de choses qui prennent place entre nous. » C'est trop souvent appliqué à la prière, l'intercession, la louange, cette dimension de prophétie ou d'activité de l'esprit à l'intérieur d'un cercle de chrétiens hyper spirituels. Mais vous avez besoin de comprendre le contexte. Dieu dit « Moi, je cherche quelqu'un qui va se tenir dans la brèche. » Puis je ne veux pas dire que lorsque nous prions, nous ne nous tenons pas dans la brèche. Je ne veux pas dire que c'est une fausse application. Vous pouvez, avec confiance dans les Écritures et avec droiture envers les Écritures, dire « Je m'en viens à la réunion d'intercession et je vais me tenir dans la brèche. » Je suis d'accord avec cette interprétation-là. Mais vous avez besoin de comprendre l'intention originale de Dieu, l'appel original de Dieu. Dieu a regardé le pays, puis il a dit « Je cherche un homme, une femme qui va se tenir dans la brèche en faveur du pays afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouvais pas. » Et regardez bien le contexte. De Ézéchiel 22, 30. C'est quoi se tenir dans la brèche? Lisez Ézéchiel 22, 29, le verset précédent. Les gens du pays se livrent à l'injustice et à l'oppression. Ils exploitent le malheureux. Ils abandonnent le pauvre. Ils oppriment les immigrants. Alors, je cherche parmi eux un homme qui se tient dans la brèche. Est-ce que vous avez compris? Que se tenir dans la brèche au-delà de la prière et de l'intercession. Dieu dit, je regarde le pays. En 2005, il dit, je regarde le pays. Je vois des mamans monoparentales qui n'ont aucune ressource. Je vois des gens qui se battent contre plus fort qu'eux. Je vois des gens qui traînent des traumatismes d'années à cause qu'ils ont été abusés et démolis. Je vois des enfants qui n'ont pas de chance. Je vois des enfants que la seule éducation qu'ils ont, c'est la gang dans la rue. Je vois des enfants qui n'ont pas de linge sur le dos. Je vois des enfants qui n'ont pas de nourriture. Je vois des mères qui sont complètement démunies avec l'enfant qui grandit en eux. Je vois tout cela et je cherche quelqu'un qui va se tenir dans la brèche afin de leur faire justice, afin de les aider et d'aider les malheureux. Et je vous dis avec amour, suivez-moi bien. Que se tenir dans la brèche, ce n'est pas seulement s'enfermer dans une salle de prière et dire « Oh, Dieu envoie le réveil », c'est d'aller dans la salle de prière et lorsque je sors, je prends un panier, je prends de la nourriture, je prends du linge, je prends une bouteille, je la mets dans ses mains, je prends mon chéquier, je donne une offrande afin que le malheureux puisse recevoir de l'aide. Je devrais dire « Amen ». La générosité, cette passion est basée sur une compréhension de comment Dieu agit, de comment Dieu rencontre les besoins à travers nous, de comment Dieu récompense ceux qui donnent, et de comment Dieu révèle la foi véritable de quelqu'un. La foi véritable de quelqu'un n'est pas seulement dans ce qu'il dit ou ce qu'il prétend, mais dans ce qu'il fait. L'apôtre Jacques l'a dit de cette façon. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, soyez rassasiés » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire à leur corps, du linge, de la bouffe, un sac de nourriture. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Ah, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Ah, toi tu donnes, toi tu es généreux, toi tu donnes. Moi j'ai seulement la foi. » Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Oui, mais moi je crois en Dieu, je suis chrétien, je suis juste pas le genre de personne qui donne, je suis pas le genre de personne qui aide. C'est pas ça que j'ai à cœur. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est injuste? Inutile. Abraham, notre père, ne fut-elle pas justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Que je mets en action ma passion et ma foi en Dieu. J'ai foi en Dieu que lorsque je prends 100 $, 200, 300 ou 1 000 $ et que je le donne aux pauvres, j'ai foi en Dieu que Dieu va pourvoir à tous mes besoins et qu'à travers mon don, Dieu va aider quelqu'un. Là, je me tiens dans la brèche. Là, j'aide quelqu'un. Nous avons besoin de maturer parce que j'ai cette observation du principe naturel de la permanence d'observation que j'appellerais sa contrepartie. Le principe spirituel de la permanence de passion. Le principe naturel de la permanence d'observation, vous pouvez prendre n'importe quel petit enfant, même le plus brillant, le plus intelligent, lorsqu'il est naissant dans ses premiers mois, si tu mets un objet avec des couleurs devant un enfant, il peut devenir instantanément passionné par l'objet. une petite balle rouge, un ballon, un petit hochet, n'importe quoi. Et l'enfant, là, l'objet passe devant ses yeux et là, son univers complet, c'est la petite balle, c'est l'hochet. C'est ce qui fait, même dans les premières années, c'est ce qui fait les conflits entre les petits-enfants sur un ballon, sur ci, sur ça, etc., etc., qui fait que dans les garderies, il y a des troisièmes guerres mondiales qu'on sur un hochet ou sur une balle. Alors, le petit-enfant qui est bébé, tu lui mets la petite balle devant lui, la petite balle rouge, puis là, tout à coup, tout son univers s'arrête. C'est l'objet le plus extraordinaire qu'il a jamais vu. Il est totalement gaga de l'objet. Il couille, il fait tous les sons possibles. Il est passionné. Et vous savez, s'il l'aime vraiment, tu le mets devant lui. Tu peux le laisser là un heure de temps, puis lui, il va trouver des facettes fascinantes à la petite balle rouge. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? L'enfant est totalement capoté sur l'objet. Et un petit bébé, si tu enlèves l'objet devant lui, il l'oublie instantanément. Il le voit plus. Il y pense plus. Il s'en ennuie plus. Il sait même pas qu'il est là. Il pense même plus. Il regrette plus. Il cherche plus. Parce qu'il est sorti de sa sphère d'attention. C'est un signe ultime d'immaturité. C'est un signe que le cerveau n'est pas encore dans les stages de développement nécessaires. Les médecins appellent ça le principe naturel de la permanence d'observation. Qu'un enfant, naissant ses premières semaines et mois, n'a pas de permanence d'observation. La minute que ça sort de ses yeux, ça sort de son attention, de ses désirs, etc., etc. Alors qu'il va maturer, qu'il va grandir, il va apprendre à aimer, à désirer, à s'attacher à des choses qu'il ne voit pas continuellement. Nous avons besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de grandir dans ce que j'appelle un principe spirituel de la permanence de passion. Permanence de passion, c'est que je suis fidèle à mon épouse, même lorsque je ne la vois pas. Toutes les femmes auraient dû dire « Amen », je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mesdames. Vous avez manqué une belle game. Il faut vous dire amen. Je vais vous donner une autre chance. Je vais recommencer. On va rewinder. Êtes-vous prêtes, mesdames? Je suis fidèle à mon épouse, même lorsque je ne la vois pas. Je suis fidèle à mon engagement de père envers mes enfants, même lorsque je ne les vois pas ou ils ne me voient pas. C'est pas parce qu'elles ne me voient pas que je ne vois pas ma femme, que je n'ai pas ma femme tous les jours, toute la journée à côté de moi, que tout à coup je perds ma capacité d'engagement envers elles. C'est pas parce que mes enfants me suivent pas au travail ou en voyage ou partout que je perds cette passion de dire je veux être un père digne de nom pour eux. Est-ce que vous me suivez? C'est pas parce que l'agent du gouvernement est pas dans mes chèques à chaque semaine que je perds ma capacité, mon engagement à être honnête et à payer mes impôts. Dites amen, c'est super bon ma prédication ce matin. La maturité chrétienne, c'est que même si je m'en vais en vacances pendant l'été, même si j'ai pas les gens d'Action Nouvelle Vie dans le visage à chaque semaine, même si Pasteur Claude prêche seulement là-dessus trois fois par année, j'ai un engagement dans mon cœur envers ceux qui souffrent. J'ai un engagement dans mon cœur avec ceux qui souffrent. La question qu'on se pose souvent, c'est ben pourquoi? Pourquoi en 2005? Pourquoi les chrétiens arrêtent-ils de donner? Pourquoi les chrétiens donnent-ils si peu? Pourquoi les chrétiens ne donnent-ils pas du tout en 2005? Laissez-moi vous dire quelques-unes des raisons que j'ai observées, qui m'attristent énormément, mais que j'ai observées comme pasteur, après 20 ans de ministère et plus. Pourquoi les gens ne donnent-ils pas, ou arrêtent de donner? Loin des yeux, loin du cœur. L'immaturité spirituelle, je ne suis pas là, je suis en vacances, je suis au camping, je suis ailleurs, je suis à une place, je suis à une autre. Il est arrivé d'autres choses, j'ai d'autres coûts, j'ai d'autres engagements, j'ai d'autres dépenses. On n'y pense plus. Je sais que vous savez, mais je prie que le Saint-Esprit écrive sur vos cœurs le fait que les pauvres continuent à souffrir, même lorsque nous sommes à l'extérieur, que les gens continuent à avoir besoin d'aide, que les besoins continuent à être là, que les églises que nous soutenons continuent à faire leur travail, que les missionnaires continuent à faire leur travail. La hausse du prix de l'essence ou une autre crise personnelle, c'est pas quelque chose qui est fictif. C'est vrai, ça peut coûter 500 $, 700 $, 800 $ à la fin de l'année à des personnes qui sont ici. Certains, selon le véhicule que vous avez, ça peut vous coûter 1000 $. Il va arriver des choses. Ceux qui sont chrétiens depuis des années, il arrive des moments de récession, il arrive toutes sortes de choses qui prennent place, qui sont réelles, qui sont des vrais coûts supplémentaires. Mais tous les chrétiens, là, j'aurais besoin de l'appui de ceux qui savent que c'est vrai. Tous les croyants qui sont là depuis 10, 20, 30 ans, puis qui ont décidé de dire les promesses de Dieu sont au-delà de toutes les crises de ce monde, même lorsque tout à l'extérieur semble difficile. Moi, je vais continuer à honorer Dieu. Nous avons découvert, moi, après plus de 20 quelques années à pratiquer ce principe, j'ai découvert au-delà de toutes les crises économiques, Dieu est toujours fidèle envers moi lorsque je demeure fidèle envers lui. Pourquoi les gens ne donnent-ils pas l'illusion de la richesse nouvelle vie? Peut-être Vous pouvez, par manque de maturité ou manque de compréhension, vous pouvez arriver à une réunion comme il y a quelques semaines, le 12 septembre, où on lance la vision de ce qu'on va faire sur le prochain 20 ans et penser que, ben, on est riche. Wow! Ça se fait tout seul, ça roule. Vous avez besoin de comprendre que si on accomplit quoi que ce soit dans les premières 12 années de l'Église, c'est qu'à chaque semaine, des gens donnent fidèlement. Et que si cette semaine, la semaine prochaine, le mois prochain, les gens continuent d'arrêter de donner, non seulement est-ce qu'on n'accomplira pas la vision du prochain 12 ans, on ne sera même pas capable de continuer à faire ce qu'on fait là. L'Église Nouvelle Vie est grande, elle est nombreuse. L'Église Nouvelle Vie a plus de ministères et plus de choses peut-être que d'autres églises, mais elle a aussi plus de dettes, elle a aussi plus de responsabilités, elle a aussi un engagement qui est plus grand. Alors nous avons simplement une des raisons qui aurait pu faire que des gens arrêtent de donner, c'est l'illusion de la richesse Nouvelle Vie. Nous avons pris un engagement. Souvent, on me le reproche. Souvent, il y a des gens qui me disent, surtout des gens qui sont plus proches du leadership, qui disent, mais pourquoi t'en parles pas plus souvent? Pourquoi tu dis pas aux gens comment est-ce qu'on passe un temps difficile? Pourquoi est-ce que tu dis pas plus aux gens que depuis des mois qu'ils arrêtent de donner, ça amène tout de suite une chute terrible et qu'on est en danger? Nous avons pris un engagement devant Dieu qu'il va y avoir un message une fois, deux fois, trois fois dans l'année et qu'on passera pas nos temps à chaque semaine arriver là-dessus. Je veux demander au Saint-Esprit de faire en vous une œuvre de maturation qui dit, pas besoin de me sonner la cloche à chaque semaine. Je sais que les besoins sont grands, je sais que la cause est juste, je sais que les promesses sont vraies. Alors, à travers les tempêtes et les hivers de ma vie et les étés de ma vie, je vais continuer à honorer, à bénir et à donner à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Les désaccords avec une décision et la direction de l'Église, ça, c'est une des raisons les plus matures de toutes. Je suis en désaccord avec l'Église, avec ce que je suis pas d'accord avec ça, moi, fait que je retiens ma dîme. Je prends Dieu en otage. Je vais vous dire ceci. La majorité des gens qui font ça sont des gens qui jamais, la très grande majorité, 99,9%, sont des gens qui jamais ne prennent une heure pour venir nous rencontrer pour nous parler de leur désaccord, par exemple. C'est comme s'ils ne veulent même pas savoir les faits, parce que d'un coup, quand on me dit les faits, on va peut-être être obligé de commencer à donner. J'aimerais vous dire, si vous avez un désaccord, puis il est possible que vous en ayez un, venez nous voir. Venez nous parler. On n'a rien à cacher. On va ouvrir nos cœurs. On va parler avec vous. Mais j'aimerais aussi vous dire ceci. C'est pas parce que l'Église ferait une démarche que vous ne semblez pas comprendre que vous devez cesser vos engagements de fidélité envers Dieu. Ou que ceux qui souffrent en Haïti, ou que ceux qui souffrent à Longueuil, tout à coup vont être pénalisés parce que vous n'êtes pas contents. Je veux appeler des chrétiens à une maturité qui dit, si j'ai un désaccord, je vais aller voir mes leaders. On va en parler ensemble. Je ne m'attends pas à une Église qui est parfaite, mais à une Église qui est droite, qui est intègre, qui va me répondre à mes questions, mais en attendant, j'ai pris des vœux devant Dieu et je vais continuer à les honorer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens ne donnent pas? Fatigue spirituelle, le sentiment que nos dons ne font pas d'impact. Mes dons sont trop petits. Quel mensonge incroyable. Les 700 familles qui sont ici, qui ne donnent pas habituellement, si vous donniez chacun le 100$, chacun ce don, quelle différence on peut faire ensemble? Quelle différence vous pouvez faire ensemble si les 1000 familles donnaient 100$, c'est 100 000$ qu'on s'en va donner aux pauvres tout de suite. Chaque don est important et fait une différence. Pourquoi les gens ne donnent-ils pas la fatigue spirituelle, le découragement face au manque de générosité des autres? Les gens qui sont ici, honnêtement, qui donnent depuis des années, ça vous attriste, ça vous alourdit, puis vous pouvez être tenté de vous relâcher lorsque vous voyez tant de gens qui ne donnent pas. À quoi bon nous autres donner lorsqu'il y en a tellement qui ne donnent pas? J'aimerais dire à chacun, premièrement, que par la grâce de Dieu, il y a des centaines et centaines de familles nouvelles à chaque année qui font le pas et qui commencent à donner. Persévérez avec nous. J'aimerais aussi dire ceci, sans juger qui que ce soit d'autre, que l'Église, c'est quelque chose que nous faisons en communauté, tout le monde ensemble. Mais la vie chrétienne, c'est aussi quelque chose que nous allons faire chacun devant Dieu. Et que chaque personne va rendre compte pour sa vie devant Dieu. Et je veux vous encourager avec les paroles de l'Épître. Ne vous fatiguez pas, ne vous relâchez pas de faire le bien, parce que le cri de ceux qui souffrent parvient jusqu'à nous. Et ils ont, et nous avons besoin de vous. Pouvez-vous dire amen? Pourquoi est-ce que les gens arrêtent de donner? Pourquoi est-ce que les gens donnent moins, les gens donnent peu? Indifférence ou endurcissement envers les pauvres. Le manque de compréhension des voies de Dieu et de confiance dans la fidélité de Dieu. Proverbe 14-21, le pauvre est négligé par ceux qui le côtoient de proche. Je vais inviter les musiciens à s'approcher, j'arrive à la fin du message. Celui qui ignore, le pauvre est négligé par ceux qui le côtoient. Les pauvres de Longueuil sont négligés par des gens qui les voient tous les jours. Celui qui ignore le malheureux est un pécheur. Mais celui qui donne à celui qui est dans le besoin trouvera de l'abondance. Combien l'ont vécu? Et vous pouvez crier « Amen » pour que tous l'entendent. Celui qui ignore les pauvres déshonore celui qui les a faits. Le véritable ami n'arrête pas d'aider. Il soutient en tout temps pour venir en aide à ceux qui sont dans la détresse. Proverbes 17, 13 et 22. Celui qui ferme l'oreille au cri du faible criera lui-même. Il n'aura pas de réponse. Bien-aimé, beaucoup plus dangereux que la hausse de l'essence, du prix de l'essence, c'est la baisse de votre confiance en Dieu qui vous amènerait à arrêter de donner. Celui qui ignore des crises d'essence et des crises de difficultés et des récessions, on va tous en passer et nous pouvons les traverser avec l'aide de Dieu. Mais si je ferme la main de bénédiction de Dieu sur ma vie, beaucoup plus dangereux la baisse de ta confiance que la hausse du prix de l'essence. Celui qui ferme l'oreille au cri du faible criera lui-même, il n'aura pas de réponse. Et regardez bien la promesse pour nous. Mais l'homme bon qui a des plans de générosité sera béni avec abondance parce qu'il a donné de son pain aux pauvres. Un homme fidèle sera comblé. Dites amen, j'arrive à la fin du message. Dites amen. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Pas de pauvreté pour celui ou celle qui refuse de fermer les yeux devant les besoins des démunis. Je termine avec ce témoignage d'un monsieur qui m'a écrit il y a quelques semaines. Il était très, très virulent et je pourrais vous dire que son témoignage, des dizaines d'autres pourraient le faire ici. Je connais beaucoup de membres de l'Église ici et il y a des dizaines d'entre vous que je pourrais me traverser les allées ce matin et vous faire lever à vos places et vous témoigneriez la même chose. J'ai commencé à donner à Dieu, j'ai commencé à être fidèle à Dieu et Dieu s'est mis à me bénir d'une manière tellement claire, tellement marquée, tellement définitive. J'ai vécu ce verset que Dieu comble de bénédictions, pas de pauvreté pour celui qui refuse d'enlever, de fermer les yeux sur les besoins des démunis. Et ce monsieur m'écrit, cher Pasteur Claude, avec beaucoup d'hésitation et de réflexion, je vous écris et je vous donne la permission de lire ma lettre en public. Si je le fais, c'est afin de donner la gloire à Dieu et d'inspirer des gens qui, comme moi, ne s'en sortaient pas de peur de faire confiance aux promesses de Dieu. Par peur de faire confiance aux promesses de Dieu. Je suis chrétien depuis 15 ans et depuis 5 ans, je ne donnais presque plus rien à l'Église. Nous nous sommes joints à une nouvelle vie en 2001 après avoir été tellement déçus ailleurs et nous avons senti Dieu nous faire revivre ici. Tous les ministères et services de l'Église nous ont bénis. Nos trois enfants aiment tellement ça, et à chaque dimanche, nous recevons de Dieu. On se sent béni et en sécurité. On n'a pas peur d'inviter des gens, et plusieurs amis rétrogrades, il écrit trois couples pour être plus exact, viennent à l'Église régulièrement maintenant que nous les avons ramenés aux choses de Dieu. Mon plus grand problème, c'était l'argent. J'avais le même emploi avec la même compagnie depuis 17 ans. Auto fourni, 5 semaines de vacances, très bon salaire. Pourtant, on n'en avait jamais assez. Mon épouse travaillait à temps plein aussi. Notre position, c'est qu'il n'en restait jamais pour la dîme ou même pour les offrandes. J'avais passé toute la gamme des positions. Je donnais quelques mois, puis j'arrêtais toujours. Ça ne me dérangeait plus. Je m'endurcissais. Ma femme voulait donner et ça nous faisait des chicanes. En 2003, le ciel nous est tombé sur la tête. La compagnie a été revendue, restructurée et moi, j'ai été forcé à la porte. Plus de voitures, plus de bonus. Et un an plus tard, pas d'emploi, pas de chômage. On est en train de tout perdre. Un dimanche, j'avais parlé de la dîme. C'était le début de l'année 2004. Après la réunion, on est allé dîner avec des amis chrétiens qui nous ont partagé leur témoignage, comment ils étaient bénis en donnant les dîmes et les offrandes. Cette fois-ci, j'ai pas chialé, pas argumenté. On a commencé à donner à chaque dimanche par la foi. J'ai passé proche de lâcher souvent, mais j'avais pris les enfants à témoin. Et ils priaient avec nous à chaque dimanche avant de partir pour l'Église, que Dieu nous bénirait, que Dieu me trouverait un emploi. Parce que Claude, je suis prêt à aller en avant si les gens ne me croient pas. Dieu a fait un miracle pour moi. Après 16 mois sans emploi, j'ai été appelé par mon ancienne compagnie. Ils m'ont offert une promotion, l'auto et un prêt pour effacer nos dettes qu'ils remboursent avec un montant sur ma paye à chaque semaine. Les enfants criaient de joie dans la maison. Je vous écris parce que je viens de recevoir mon premier bonus un an plus tard. Depuis le début de l'aventure, c'est le plus gros bonus de ma vie. Le double de mon meilleur bonus avant. Combien aiment le double des meilleurs bonus avant? Ma femme a réduit ses heures à 2 jours semaine et les autres jours, elle fait mes papiers et travaille pour moi. J'ai proposé à mon patron de l'engager et ils ont dit oui. Elle reste à la maison et elle est payée plus qu'avant. Combien me restait à la maison et être payée plus qu'avant? J'ai souffert des dettes, des pressions pendant des années. La vérité, c'est qu'à 51 ans, j'ai vu une abondance et une sécurité financière pour la première fois de ma vie. Et c'est Dieu qui l'a fait. Maintenant, c'est moi qui dois en parler aux autres. Lorsque je fais des offrandes pour les personnes qui ont des gros problèmes ou pour les missionnaires, c'est à Dieu que je donne. Et c'est Dieu qui me redonne 10 fois plus. Tout en moi a grandi et toute ma vie chrétienne va mieux. Je suis fier de recevoir mon reçu d'impôt à la fin de l'année et de voir tout ce que j'ai donné à Dieu. À la fin de ma vie, je vais me présenter devant Dieu. Et comme vous avez dit, je vais voir tous les gens qui ont été aidés par nous tous à nouvelle vie. Je suis fier maintenant de faire ma part et de faire partie de la solution. Combien d'entre vous l'avez vécu? Vous savez qu'il n'y a pas de disette ou de manquement pour ceux qui honorent ceux qui souffrent. Vous pouvez applaudir avec moi. Car l'Éternel délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui a besoin d'aide. Il aura compassion du faible et du pauvre, car leur vie aura un grand prix à ses yeux. Un pas de compréhension ce matin. Que le message de Dieu, c'est que j'aime ceux qui souffrent, je vais les prendre dans mes bras. Et le moyen de Dieu, c'est que nos bras deviennent les siens. Nos dons deviennent la possibilité de s'occuper de ceux qui souffrent. Et que chacune de ces vies a du prix à ses yeux. Si on regarde à la dernière diapo de l'avant-midi, vous savez, lorsque je parle de 8000 personnes à chaque mois qui sont aidées à Action Nouvelle Vie, j'ai de plus en plus l'impression que c'est trop vague. C'est trop vaste, c'est 8000 personnes. Ça fait comme une foule. Les bénévoles d'Action Nouvelle Vie savent que les histoires de chacune de ces personnes-là. Je vais demander aux bénévoles d'Action Nouvelle Vie de venir à ce moment-ci, de vous approcher. Venez tout le monde ensemble, venez-vous-en. Tous ceux qui ont été préparés pour ça. Je veux que vous les voyez et pendant qu'ils s'avancent, je veux que vous leur donniez une main d'appréciation pour le travail qu'ils font. Go on stage. Remercions le Seigneur pour l'œuvre qu'ils font à chaque semaine. Je vais leur demander de chacun tenir un paquet dans leurs mains. Ils tiennent à peu près 8000 feuilles dans leurs mains, représentant les 8000 personnes que vous aidez, que vous rendez possible d'aider à chaque mois. Nous avons des centaines et centaines et peut-être des milliers de personnes qui seraient sur des listes d'attente. Si on pouvait les aider, qu'on aiderait. Mais en ce moment, c'est 8000 personnes qui dépendent de moi et de vous, qui dépendent de notre don, de notre soutien. 8000 personnes, 8000 feuilles. Je prends n'importe quel de ces paquets, merci. Chacune de ces feuilles représente une vie qui est aidée à chaque mois par Action Nouvelle Vie. Je veux que vous regardiez, si vous voulez bien, avec ce qui apparaît à l'écran, ce que ça représente une vie, une personne que nous aidons. Le nom de la personne. C'est quoi l'âge de la personne? C'est quoi son arrière-plan familial? Sociale ou spirituelle. C'est quoi qu'elle a vécu, cette personne-là, dans sa vie? C'est quoi les abus qu'elle a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ses parents ou dans ses grands-parents ou dans son divorce ou dans quelle maison qu'elle a grandi, dans quel foyer qu'elle a grandi, de quelle manière elle a été élevée? C'est quoi les épreuves, les tragédies, les abus, les traumatismes? Pourquoi est-ce que cette personne-là a besoin d'aide à Action Nouvelle Vie? Qu'est-ce qui va arriver si on ne l'aide pas? C'est quoi le nom et l'âge de ses enfants? C'est quoi les aspirations et rêves et désirs? Le psalmiste a dit, Seigneur, nous voulons aider ceux qui souffrent. Nous avons une passion pour ceux qui souffrent afin qu'ils puissent cesser d'être tourmentés par la peur. Qu'est-ce qu'ils pensent ce soir lorsqu'ils sont couchés, ces mamans-là, lorsqu'elles couchent les enfants dans un appartement misérable parce qu'elles ne savent pas avoir de la bouffe demain, lorsqu'elle a son petit bébé dans les mains et elle n'a pas de lait qui est de bon lait à lui donner. C'est quoi qu'elle a peur? C'est quoi qui la terrorise? C'est quoi qu'elle aspirait à être? C'est quoi les rêves qu'elle aurait? C'est quoi qu'elle voudrait être? C'est quoi qu'elle voudrait recommencer? C'est quoi ces obstacles? C'est quoi les attaques? C'est quoi les handicaps? C'est quoi ces conditions de vie? Et surtout, c'est quoi les désirs et la volonté de Dieu pour la vie de cette personne-là? Parce qu'on peut s'asseoir ici et dire, comme le psalmiste, « Oh oui, Seigneur, tu as compassion de ceux qui souffrent et leur vie a tellement de prix à tes yeux. » Mais c'est seulement lorsque leur vie va avoir du prix à nos yeux que la main de Dieu va pouvoir aller les aider puis que les gens vont trouver les bras de Dieu. Alors, les 8000 personnes et les 8000 feuilles qui sont là, regardez-les bien, c'est des vraies personnes comme toi, comme moi. C'est des vrais enfants comme tes enfants et les miens. C'est des vraies personnes comme vous et moi qui souffrent, qui ont mal, qui ont peur, mais aussi qui ont besoin d'aide. Alors, c'est le choix que nous avons à faire ce matin. Nous avons le choix. Personne ne le fait aussi brutalement. Personne ne le fait aussi délibérément. À travers la province et à travers le monde, des milliers d'églises n'ont absolument aucune pensée. Aucune pensée de faire quoi que ce soit de concret pour ceux qui souffrent. Quelqu'un qui me dit cette semaine, est-ce que tu... J'ai simplement mentionné que je prêchais ce message-là ce matin, c'était un pasteur hier à la célébration. Il me dit, oh, il dit un message de la générosité financière. Il dit, t'as-tu peur de le donner? T'as-tu peur de perdre du monde? Faut quasiment s'excuser de le dire. Moi, je vais vous dire ce matin, je m'excuse pas. Je m'excuse pas de vous appeler à la générosité. Je m'excuse pas de vous appeler à faire quelque chose pour ceux qui souffrent. Pas du tout même. Personne ne fait aussi, c'est juste quelqu'un m'a donné un autre. Personne ne fait aussi délibérément. Mais nous avons un choix ce matin. 8000 personnes, leurs rêves, leurs aspirations, leur futur, leur avenir. À chaque baptême d'eau, il y a des gens qui passent par les eaux du baptême qui témoignent que c'est à travers d'Action Nouvelle Vie la première fois qu'ils ont été en contact. Fait quoi que ce soit de chrétien. Et nous avons le choix ce matin, par notre refus de nous engager, par notre refus de donner, de sacrifier, nous avons le choix de dire, ils ont du prix à leurs yeux, mais nous autres, on va continuer. Ils ont du prix aux yeux de Dieu, mais nous autres, on va continuer avec nos vies. Où nous avons le choix, et les bénévoles vont le faire, de prendre chacun de ces noms précieux et d'aller les porter au pied de la croix. D'aller les porter au pied de celui qui les aime, au pied de celui qui veut en prendre soin, au pied de celui qui veut les aider, au pied de celui qui veut les secourir. Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever et faire notre choix ensemble ce matin? J'aimerais que vous vous leviez un instant et j'aimerais qu'on puisse applaudir de tous nos cœurs ce matin. Applaudissez ce qu'on peut faire ensemble. Applaudissez la possibilité que nous avons d'aider pour le vrai. Allez, faites résonner des applaudissements dans ce lieu. Voici ce que nous allons faire ce matin. À ce moment-ci, les placeurs vont s'avancer. Nous n'aurons pas de vidéo. On avait une vidéo de préparer, mais je crois qu'il faut simplement donner ce matin. Vous avez dans votre bulletin, j'aimerais vous demander de le prendre, l'enveloppe normale pour les dîmes et l'enveloppe offrande d'action de grâce. Nous allons recevoir les dîmes de ce matin, dès maintenant. Les placeurs vont s'avancer et vont recueillir les dîmes maintenant. Mais pendant que les offrandes vont être passées, certains d'entre vous allez donner vos... Je prie que tout le monde va donner sa dîme avec un cœur renouvelé. Va donner les dîmes, les offrandes. Et certains vont dire, moi, je veux donner le retard que j'ai pris pendant tout l'été. Et que d'autres vont dire, dès ce matin, moi, je veux donner 100$, je veux donner 200, je veux donner 300. Dès ce matin, je suis prêt à donner. Ou d'autres vont aller prier en famille. Et dimanche matin prochain, j'amènerai pas un message sur ce sujet. Dimanche matin prochain, on va continuer tout simplement avec l'action de grâce. Mais on va recueillir l'offrande d'action de grâce. Et que ce matin, vous puissiez maintenant, avec la compréhension de comment Dieu agit, avec compassion et avec confiance en Dieu, exprimez votre passion pour ceux qui souffrent. Pendant que vous penchez la tête un instant, Seigneur, je te prie maintenant qu'une vague de conviction et de joie, Seigneur, de joie, la joie de donner, la joie de faire une différence, la joie de dire à ces gens, vous êtes précieux à nos yeux parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Nous avons vu ta face, Seigneur, et nous voulons avoir le même cœur. Alors ce matin, je te prie une conviction sur ceux qui donnent depuis toujours, que tu les renouvelles et les fortifies. Une conviction sur ceux qui ont de grands moyens, mais aussi une conviction sur ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui n'ont jamais donné ou ne donnaient plus. Je prie maintenant que tu brises chaque barrière et que tu libères nos cœurs maintenant dans le nom de Jésus. Dieu, c'est mon désir de t'honorer dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Demeurez assis. Nous allons chanter ce chant qui dit « Dieu, c'est mon désir ». Et pendant que vous donnez, vous adorez le Seigneur et vous exprimez votre désir devant lui. Oh, 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 Dieu, c'est mon désir. Je te donne ma vie.
je te donne mon cœur.
Levons-nous ensemble et tendons nos mains vers Dieu. Terminons cet avant-midi en tendant nos bras vers toi, Seigneur. Et en te disant, nous voulons être tes bras envers ceux qui souffrent. Nous voulons te donner tout ce que nous avons. Laissez-moi voir des mains se lever partout envers ce lieu. Et des cœurs qui s'offrent à Dieu. Oh, me voici, Seigneur, entends nos cœurs. Oh Dieu, c'est mon. Ensemble, nous les fils.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.